Podcast, la première.
Parlez-moi d'amour, une émission de Gabriel Stefanski.
Amoureuse et amoureux de la planète Eros, bonsoir ou belle nuit. Traverser les épreuves de son couple en optant pour un nouveau modèle, le poly ou pluriamour, n'est pas donné à chacun. Mais certains y trouvent un enrichissement et un épanouissement personnel et ne manquent pas de donner de l'ampleur sur la toile, mais pas seulement, au mouvement des polyamoureux. Le phénomène n'est certes pas nouveau, nous avons tous en mémoire le couple mythique Simone de Beauvoir-Jean-Paul Sartre qui, au siècle dernier, posait les bases d'un rapport radicalement nouveau entre l'homme et la femme en célébrant la polyfidélité. Bien que les sociétés occidentales continuent à prôner un seul modèle, celui de la monogamie, aujourd'hui en France comme en Belgique, un couple sur trois divorce ou se sépare. C'est dire que le modèle dominant ne convient pas à tout le monde. D'ailleurs, pourquoi serait-on plus heureux avec un seul partenaire dans sa vie plutôt que plusieurs? Personne n'est capable de donner une réponse à cette question pourtant si simple. Libérée du regard des autres, la journaliste et auteure Françoise Saint-Père, théoricienne de l'art d'aimer plusieurs personnes, a choisi dès après mai 1968, un mode de relation basé sur des amours pluriels, mode de vie qu'elle est loin de recommander à tous les amoureux parce qu'avant tout, il doit correspondre à nos vrais désirs dans le respect de soi et des autres. L'expérience de la diversité du sentiment amoureux sera au cœur de ce Parlez-moi d'amour avec pour guide son égérie Françoise Saint-Père.
Pas la première fois qu'on vous reçoit à l'émission, j'avais envie de refaire le point sur ce mouvement polyamoureux dont vous avez été une pionnière, en tout cas en transmettant cette expérience insolite au public et grâce à vos ouvrages. Et donc maintenant on voit fleurir un peu partout sur internet des blogs, des sites de rencontres, des cafés polyamoureux. Quelle est votre opinion sur ce développement d'une nouvelle façon de nous aimer?
Eh bien, je ne suis pas sûre que ce soit une nouvelle façon de nous aimer. Je pense que c'était une aspiration qu'avaient beaucoup de gens, mais ils n'osaient pas en parler. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être plus de pluriamoureux qui osent l'être, mais beaucoup y pensaient avant, parce que on ne devient pas pluriamoureux parce que c'est la mode. Quand les gens me disent, oh, c'est très à la mode, ça m'horripile, parce que c'est tellement difficile que si c'était une mode, ça ne durerait pas. Je pense simplement que le fait de la médiatisation, qui effectivement, vous avez raison, est croissante, fait que de plus en plus de gens osent dire ce dont ils rêvaient. Un petit peu comme les homosexuels. Les homosexuels ne sont pas nés de leur médiatisation, mais ils ont osé en parler.
Pourquoi vous avez envie de garder le terme pluriamour plutôt que polyamour qui s'est répandu et qui vient de l'anglais ?
Bien justement, j'ai préféré pluriamour à polyamour à cause de cela, parce que polyamorie c'était un terme anglais et qui ne veut pas dire exactement la même chose. Aux États-Unis, c'est un mouvement plus communautaire, je dirais. Et moi, j'aime pas trop le communautarisme. Et dans les pluriamours, ce qui est intéressant, c'est justement la diversité. C'est pas seulement le nombre, c'est pas le fait de pouvoir avoir 3 ou 4 liens importants. C'est le fait que ces liens sont aussi différents. Et certes, quelques personnes, quelques pluriamoureux ont 2 foyers, 2 vies parallèles, mais c'est assez rare. Beaucoup insiste sur le fait qu'avec chaque personne, le lien est unique et différent.
Ça, c'est important de le souligner. Pourtant, vous avez été fort décrié quand le premier livre est sorti, Aimer plusieurs hommes. Aujourd'hui, on va pas dire que ça se banalise, mais il y a une curiosité bienveillante, on va dire, plutôt qu'une critique négative de ce choix de vie.
Il y a eu surtout une évolution. C'est vrai que j'ai entendu pique-pendre à mes débuts, mais il y a aussi des gens qui ont découvert que c'était possible en le vivant, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut découvrir dans son vécu. J'ai eu des femmes qui m'ont insulté dans des lettres en me disant que j'allais détruire tous les foyers, que certainement elles ne me présenteraient jamais leur mari, et puis qui s'excusaient quelques années après en me disant « je n'imaginais pas cela possible, et puis voilà, ça m'arrive, je suis amoureuse de quelqu'un, tout en aimant toujours mon compagnon », et elles découvraient qu'en fait c'est la réalité. En fait, je crois que le très important à souligner, c'est que les pluriamoureuses se mettent en face d'une réalité qui est qu'au cours d'une vie, on rencontre plusieurs personnes dignes d'être aimées d'un véritable amour, et que au fond, ce qui est le mythe, c'est la monogamie et l'être unique destiné, le prince charmant qui vous est destiné. Seulement, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, les sociétés se construisent sur des mythes. Donc, attaquer un mythe, c'est très difficile.
Vous venez d'employer le terme digne. Est-ce que les pluriamoureux sont les indignés de la monogamie? Et puis, alors, il y a une petite anecdote que j'ai lue récemment, c'est qu'il semblerait que Stefan Hessel est le fils de cette histoire inspirée Jules et Jim, donc indigné lui aussi. Est-ce que vous vous situez dans ce courant d'indignés?
Alors, j'ai fait à Bruxelles, d'ailleurs, une causerie, conférence lors d'un café pluriamoureux. C'était très intéressant parce qu'en plus, ça se passait à l'association Bruxelles Laïque. Donc, c'était vraiment dans un mouvement un peu politique. Et j'ai fait ce rapprochement. J'ai dit, il y a quelque chose de commun entre les indignés et les pluriamoureux, c'est de se dire, bon, on a un modèle qu'on nous présente comme le seul possible, que ce soit le modèle financier capitaliste en économie ou le modèle monogame exclusif en amour. Et on se dit, mais en réalité, ça ne marche pas si bien que ça, puisqu'il y a autant de problèmes, autant de gens malheureux, que ce soit en amour ou dans la vie publique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout détruire, bien évidemment. Il y a peut-être des gens qui se trouvent bien dans ces modèles. Mais puisqu'une majorité ne s'y trouve pas bien, pourquoi ne pas inventer autre chose? Donc, on s'indigne déjà des crimes que peut susciter l'amour passionnel, comme des crimes que peut susciter l'économie mal pensée. Donc on est indigné contre le mal, mais aussi on est indigné contre cette pensée unique, oui.
Françoise Saint-Père, ce n'est pas rien d'être une femme, surtout une femme, pour avouer cette envie de connaître des amours pluriels. Et à l'époque, au début des années 2000, c'était quand même très difficile encore. Et encore, les femmes sont toujours pointées du doigt et toujours sous le contrôle masculin au niveau de la libido comme au niveau social aussi.
Oui, je crois que pour les femmes, c'était difficile par rapport au regard des autres. Au regard des hommes qui souvent nous prenaient pour des libertines, et puis même au regard d'elles-mêmes qui veulent toujours avoir l'air extrêmement moral. Donc c'est drôle d'ailleurs sur certains forums de pluriamoureux, comme ils insistent sur le sentiment et puis ils oublient la sexualité, alors que la sexualité est évidemment présente dans les amours pluriels, mais ils ont tellement peur d'être assimilés à des libertins qu'ils disent non, nous c'est de l'amour, c'est rien que de l'amour. Il y en a même qui disent moi c'est pas du sexe. Enfin, c'est assez drôle ça. Mais je pense que, en revanche, le pluriamour convient énormément aux femmes, plus qu'aux hommes, parce que justement, elles ont envie d'une relation complète. Le côté uniquement sexualité libre les intéresse peu. Enfin, il y en a peu que ça intéresse. Les hommes, plus souvent, s'en contenteraient.
Justement, on va peut remettre les choses au point. Sexualité libre et l'importance de la sexualité dans les amours pluriels. Comment est-ce qu'on peut distinguer les deux?
La sexualité libre, si on revient par exemple aux années 70 ou au libertinage aujourd'hui, tous ces clubs libertins, alors ça m'étonne beaucoup parce que les clubs libertins sont à la mode, donc les gens veulent y aller, se dire qu'ils sont très libres, mais c'est très fusionnel, hein, ils y vont en couple, ils se surveillent, ils regardent, c'est pas du tout la liberté en réalité. Mais disons que le libertinage est basé essentiellement sur de la relation sexuelle, et même il y en a qui interdisent totalement les sentiments, qui interdisent qu'on revoie les partenaires en dehors des lieux prévus pour ça. Tandis que le pluriamour, c'est une relation complète. Mais bien évidemment, dans relation complète, il y a sexualité. Et la sexualité, en fait, est enrichie par les amours pluriels, non pas par le nombre, c'est pas du tout une partouze, hein, c'est très rare que beaucoup de partenaires se mettent ensemble, mais par contre, on est différent avec chaque partenaire sexuel. Moi, je sais que les hommes que j'ai connus n'ont pas connu forcément la même Françoise. C'est logique, c'est une alchimie. Et donc, non seulement on découvre soi-même d'autres façons d'être aimé par des hommes, mais on se découvre soi-même différente dans sa façon d'aimer. Donc ça enrichit énormément. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de facettes de moi que je n'aurais jamais connues si je n'avais connu qu'un seul homme.
Est-ce qu'il n'y a pas une perte de contrôle de soi, parfois ?
Je pense que, effectivement, le sexe est tellement, c'est très curieux parce que le sexe dans notre société est à la fois banalisé, on en parle sans arrêt, on vous vend des sextoys dans les supermarchés, et en même temps, considéré comme quelque chose d'extrêmement grave, c'est on passe le pas ou on ne passe pas le pas. Finalement, les pluriamoureux se disent, je peux passer le pas, c'est autorisé, il n'y a rien d'interdit, mais je ne suis pas obligée non plus. Et de ce fait, ça les rend, j'allais dire, beaucoup plus détendus par rapport à la sexualité, ce qui évite peut-être de perdre le contrôle. Et par ailleurs, ce sont des gens qui s'interrogent énormément sur le lien qu'ils ont avec les gens. Donc, on pourrait dire d'ailleurs qu'ils sont dans un contrôle permanent, c'est un peu le revers de la médaille. Face à la passion, ils réfléchissent avant de tout casser dans leur foyer, par exemple.
Françoise Saint-Père, quelles sont les valeurs principales? Bon, parce qu'il y a la passion, il y a le sexe, il y a la curiosité, mais il y a d'autres valeurs et d'autres codes.
Je crois que dans le pluriamour, la première valeur, c'est de ne pas mentir. Bien sûr, le plus simple, c'est l'adultère. Hein. L'adultère, c'est hyper simple. Si on arrive, on se cache, voilà. Mais ça n'est pas satisfaisant, en tout cas moralement, de mentir à quelqu'un qu'on est censé aimer. Ça n'est jamais très agréable, même si certains hommes disent « Ah, mais tant qu'elle ne sait rien, elle ne souffre pas ». Sauf que les femmes sont très intuitives et se rendent très bien compte si l'homme qu'elles aiment est vraiment complètement avec elles ou avec d'autres. Donc autant l'avouer, autant le dire, et plutôt que l'avouer comme une faute, autant en parler. L'idéal, ça serait que les couples en parlent avant de se mettre ensemble.
Ça, c'est un peu plus difficile, évidemment. Je suppose qu'il y a quand même des connivences et des complémentarités culturelles, intellectuelles, qui vont de soi.
Je crois qu'il y a des valeurs, oui. Alors, outre le mensonge, enfin l'absence de mensonge, il y a aussi la communication. C'est vrai que les couples pluriamoureux, c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait qu'ils sont bien ensemble. Ils passent beaucoup de temps, parfois même un peu trop, à parler de leurs liens, de comment ça va, à être attentif à l'autre, à lui dire est-ce que là ça va, t'es d'accord, t'es ok avec ça, ou bien est-ce que tu te sens mal, est-ce que voilà. Et donc cette attention qu'on souhaiterait voir dans les couples monogames, mais qui souvent sont oubliés parce que la monogamie, ça veut dire tu m'appartiens, c'est lié, voilà, c'est ficelé, j'ai mon paquet. Là, au contraire, c'est un lien qui est remis en cause à chaque fois et ça oblige à le cultiver. Donc, il y a cette valeur-là. Je pense qu'il y a une valeur très écologique qui est une valeur de ne pas s'approprier le vivant. Hein. On ne veut pas breveter les gènes. Pourquoi on s'approprierait un être entier? Et il y a des valeurs de partage d'idées. En fait, ce sont des gens qui s'aiment beaucoup parce qu'ils ont une vision assez généreuse de l'existence et que dans un monde qui est plutôt dur, finalement, le pluriamour, parfois on nous dit vous êtes des bisounours, comme si c'était pas bien du tout, mais moi je dis mais les bisounours, c'est tout à fait charmant, ça fait beaucoup de bien aux enfants, pourquoi pas aux adultes?
Le sens de tout ça, quand on entend des gens comme vous dire le bienfait que ça peut apporter à l'équilibre, à l'épanouissement, mais ça veut dire qu'il y a du sens derrière tout ça.
Alors, je pense que le sens est différent selon les personnes, hein, parce que les amours pluriels, dans la diversité, ont aussi la diversité des façons de le vivre. Donc, je ne peux parler qu'en mon nom. En mon nom, ça m'a obligée à faire un énorme travail sur l'ego. Et l'ego, c'est quand même la chose la plus compliquée. C'est-à-dire d'avoir un ego suffisamment équilibré pour me dire je suis quelqu'un de très bien et donc je mérite l'amour qu'on me donne. Et en même temps, d'avoir un ego suffisamment modeste et lucide pour me dire mais je ne suis pas universel. Donc, il est tout à fait normal que des hommes qui m'aiment puissent aimer d'autres femmes qui apportent d'autres choses. Je crois que le plus grand apport, ça a été ça. C'est que maintenant, je suis complètement, je n'ai pas de problème d'ego. Voilà.
Oui, c'est souvent ça, hein, les blessures narcissiques, quand on sait que quelqu'un qu'on aime, aime ailleurs. C'est l'orgueil, le narcisse qui en prend beaucoup.
La jalousie, je pense, qui d'ailleurs arrive encore hein, chez les pluriamoureux de temps à autre, il y a toujours une incertitude aussi. On se dit, tiens, il a rencontré une personne, est-ce que celle-ci, ça va être celle qui fera qu'il me quittera? Parce que tout est toujours possible, donc ça n'est pas une assurance. Hein. Mais le narcissisme, on arrive à l'apprivoiser. Il faut surtout pas le nier. Il faut pas se dire, non, je ne serai pas jalouse, c'est très mal, c'est petit bourgeois, comme on disait dans les années 70. Non, se dire, là, je suis jalouse, alors que parfois je ne le suis pas. Qu'est-ce qui fait que précisément en ce moment et avec cette personne, je suis jalouse? Donc ça apprend vraiment à décortiquer ce qui se passe dans la tête. On n'est plus dans le simplisme, on n'est plus dans le manichéisme.
François Saint-Père, ce qui surprend aussi dans votre cas, c'est que vous tenez à votre couple, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous élevez ensemble votre mari et vous, vos enfants. Et ça interpelle aussi. On se dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que l'autre, le partenaire, le mari et l'épouse acceptent? Et comment est-ce qu'on chemine ensemble dans cette direction?
Je crois que j'ai eu la chance de commencer très tôt, parce que c'est un long travail, et donc comme nous avons commencé avant même de nous marier, à en parler, parce que mon mari de toute façon était quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes, et qui aime toujours beaucoup les femmes, donc je savais quand je l'ai connu, il sortait avec 5 filles à la fois, donc il n'était pas trop dans la monogamie. Avec moi, il voulait l'être, curieusement, parce que pour lui, le mariage était quelque chose d'assez sacré. Et on en a parlé, on en a beaucoup discuté, mais on peut pas dire que c'est lui qui a accepté ou moi qui ai accepté. J'ai été le moteur sur un plan théorique. C'est vrai que sur tout ce que ça représente au niveau social, au niveau politique, j'ai fait la réflexion. Lui, au départ, il trouvait que c'était quand même sympathique de pouvoir vivre librement des amours sans devoir se cacher. C'est plutôt ça qui l'avait motivé. Mais petit à petit, à force de discussion, il a vu aussi tout l'aspect théorique et ça a nourri énormément notre couple. On se le disait encore hier, que ce qui est agréable, c'est d'avoir encore beaucoup à se dire alors qu'on se connaît depuis plus de 35 ans.
Il y a quand même des blessures. Ça ne peut pas être sans douleur qu'on ait plusieurs amours.
Je crois qu'il y a des blessures dans n'importe quelle relation, y compris dans la monogamie. Il n'y a pas un couple monogame qui vous dira du premier jour au dernier jour, ça a été formidable. Donc, comme n'importe quel couple, moi j'ai connu des, comme je dis, c'était du rafting conjugal parfois, et avec des grosses vagues et des tempêtes. J'aurais pu divorcer 30 fois dans ma vie, ce qui en gros ne fait qu'une fois par an, hein, c'est pas beaucoup. Mais plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce mec-là qui parfois faisait de la provocation, voulait absolument me montrer qu'il séduisait davantage que moi. Enfin, à un moment donné, il avait des réactions de rivalité qui n'étaient en fait que des manifestations de son ego. Est-ce que je suis le meilleur ou pas? Parce que beaucoup d'hommes se demandent ça. Donc tout ça, il a fallu le vivre, le surmonter. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'étais persuadée que c'était une bonne idée. Je ne peux pas dire un modèle, parce que ce n'est pas un modèle, ça ne convient pas à tout le monde, mais que c'était une bonne idée, que c'était une idée qui nous allait bien. Nos filles, elles ont vécu en sachant comment on vivait, mais avec aussi une grande discrétion sur notre vie amoureuse et sexuelle, parce que ça ne regarde pas les enfants, pas plus que leur vie sexuelle ne nous regarde. Et les hommes que j'aime, ben, il y en a eu avec qui j'ai eu des griefs très forts, il y en a que j'ai quitté en claquant la porte. Mais quand c'était un amour important, on est revenu. Genre, notamment, il y en a un, ça fait 20 ans, on vient de fêter nos 20 ans de connaissance, et on s'aime toujours, alors qu'il y a eu des moments où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pu trouver à ce type-là? C'est-à-dire qu'on accepte les hauts et les bas. Ça aussi, c'est une chose que ne font pas les monogames, surtout aujourd'hui, où pour un oui, pour un non, ils divorcent. Moi, je vous dis, j'aurais pu divorcer maintes fois, mais à chaque fois, je me suis dit, est-ce que j'ai fini mon histoire avec cet homme? Non, elle n'est pas finie, c'est une période de basses eaux, on n'est pas bien. Alors je prenais des distances, il m'est arrivé de m'éloigner, de partir quelques jours pour faire partir la colère. Tout récemment encore, j'ai eu une colère par rapport à mon mari, vraiment je me disais, mais je vais le laisser tomber, de toute façon j'ai fait le plus gros avec lui, tout va bien, les années à venir seront forcément plus mauvaises, il va devenir vieux. Vous voyez, des fois on se dit des trucs comme ça, il commence à m'ennuyer, etc. Je me suis dit, oula, t'es pas bien, là. Je suis partie deux jours et je lui ai dit. Je lui ai dit, non, là, en ce moment, je te supporte plus. Je suis partie deux jours. Et puis, ma colère s'est apaisée. Et puis, je suis revenue. Puis, on a parlé très tranquillement. Puis, ça y est, on a retrouvé notre lien amoureux.
Vous venez de dire, Françoise Saint-Père, que vous ne érigiez pas cela comme modèle. Et pourtant, vous avez publié le guide des amours pluriels. Donc, ça, c'est quand même, ça veut dire qu'on donne des pistes et des outils, des clés pour les couples qui seraient tentés par ce type d'expérience.
J'ai écrit le guide des amours pluriels, je vais vous dire, c'est un peu par paresse, parce que après la publication de Mes plusieurs hommes, je recevais une quantité de lettres, j'en ai reçu plusieurs centaines de personnes qui me parlaient de leur vie conjugale. Certains étaient pluriamoureux, d'autres ne l'étaient pas, d'autres étaient tentés, d'autres ne comprenaient pas, mais en tout cas, ils me posaient toujours des questions pour élucider ce mode de vie. Et donc, je me suis dit, il y a quand même à expliquer à la fois des choses théoriques. Donc, dans le guide des amours pluriels, il y a des passages très théoriques sur ce qu'est l'amour, ce qu'est le lien, pourquoi la jalousie, les enfants. Et puis, il y a des choses très, très pratiques du style, qu'est-ce que je fais si une amoureuse téléphone alors que je suis en train de dîner avec ma compagne? Voilà. Parce que ça aussi, ce sont des choses à résoudre. Il y avait des gens qui me posaient des questions du genre, est-ce qu'il faut changer les draps pour chaque amoureuse? Vous voyez, ça allait vraiment du plus prosaïque au plus philosophique. Est-ce que vous ne cherchez pas quelque chose d'idéal? Est-ce que vous n'êtes pas finalement toujours insatisfaite. Il y avait tout ça. Et je me suis dit, ce sont des questions aussi qu'on se pose dans n'importe quelle relation amoureuse. Et j'en ai eu la confirmation quand plusieurs lecteurs et lectrices m'ont dit, mais au fond, votre guide, on devrait le distribuer à mairies lors des mariages, parce qu'il pourrait même aider des monogames. Parce qu'il dédramatise beaucoup de choses. Vous savez, les chagrins d'amour, finalement, c'est très fort, ça fait très très mal. J'en ai eu comme tout le monde, donc je sais ce que c'est. Mais en même temps, quand on les regarde avec le recul un an plus tard, on se dit, mais comment ai-je pu me mettre dans cet état-là?
Et donc, c'est un guide qui fait recette. Il est très apprécié, très vendu.
Alors, le guide des amours pluriels, c'est curieux parce qu'il est sorti en 2007 ou 2008, je ne sais plus, enfin, donc déjà plusieurs années. Et au début, il était un peu dans les tréfonds des guides parce que un peu iconoclaste. Et à force de médiatiser les amours pluriels, les gens découvrent ce guide. J'ai encore eu hier une personne qui m'a écrit du Québec pour me dire « Votre guide a sauvé mon couple ». Tant mieux pour elle, j'en suis ravie. Et il est, depuis plusieurs jours, toujours dans les 10 premiers des ventes Amazon. Hier, il était numéro 1, avant-hier, il était numéro 2, deux jours avant, il était numéro 1. Donc, on voit que c'est un sujet qui interpelle les gens, qu'ils veuillent ou non adopter ce mode de vie.
Oui, parce que ce n'est pas nécessairement pour imposer vos vues et votre expérience.
Non, je crois que c'est important de... On lit des philosophes, on n'est pas forcément d'accord avec eux. On peut lire des livres sur l'homosexualité sans être homosexuel. C'est simplement comprendre comment d'autres personnes peuvent fonctionner différemment.
Ce n'est pas encore entré dans les mœurs, hein, ça, cette idée d'avoir plusieurs amours, alors que c'est quand même dans nos fantasmes.
Je crois que c'est rentré dans les mœurs, en fait. Parce que si vous interrogez les gens en leur demandant « Est-ce que vous n'avez eu qu'un seul partenaire dans votre vie ?» Vous en trouverez très, très peu. même chez des personnes âgées qui vous diront, ben non, j'avais eu un ou deux fiancés, puis après je me suis mariée. Alors ensuite, peut-être qu'ils n'ont pas trompé, mais ils en ont eu au moins deux ou trois. C'est rentré dans les mœurs, mais il y a toujours ce fameux mythe de l'amour unique, éternel, et voilà. Et donc les gens n'osent pas en parler, mais s'ils se regardaient la réalité, et c'est ce que font les pluriamoureux, ils verraient que tout le monde, ou presque, a eu plusieurs amours dans sa vie.
Oui, mais pas en même temps.
Ben, là, c'est qu'une question, j'allais dire, de tempo. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont monogames sériels successifs, comme sériels monogames, je dis. Mais si on leur posait la question, d'ailleurs, récemment, quelqu'un me l'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, je vais être obligée de quitter ma compagne parce qu'elle est amoureuse. Je lui dis pas forcément. Peut-être aussi que ça peut se vivre en même temps. C'est dommage. Est-ce que tu aimes encore ta compagne? Oui, il l'aimait encore. Mais dans sa tête, ça n'était pas possible d'avoir deux amours en même temps. Mais c'est purement théorique, ça, puisqu'il y a plein de gens qui le vivent.
Est-ce que vous vous sentez émancipée par rapport à ça, à ces expériences-là?
Que voulez-vous dire par émancipée?
Plus libérée, mieux dans votre être, plus vous-même.
Depuis cette fameuse crise de la quarantaine, j'ai eu comme tout le monde la crise de la quarantaine, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment suis-je, etc. Et c'est même là que j'ai approfondi le pluriamour, parce que pendant longtemps je l'ai vécu comme chose de très léger, mais en me disant je peux pas aimer profondément, c'est quand même dangereux. Et puis je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, j'ai envie d'aimer profondément, il n'y a aucune raison que je ne vive pas ces expériences, par contre je les assumerai totalement, y compris dans les échecs. J'ai eu ce plaisir à un moment donné, comme quand vous cherchez un mot longtemps, quand vous écrivez un mot qui doit être juste, et puis vous ne le trouvez pas, vous l'avez au bout de la langue, et puis un jour, vous le trouvez, et la phrase est belle. Eh bien, j'ai un peu ce sentiment avec ma vie, c'est que maintenant, je suis dans la vie que je souhaitais, totalement, en accord total entre mes rêves et ma réalité.
C'est quand même drôlement enrichissant, alors.
C'est enrichissant de pouvoir réaliser ses rêves, parce que pendant très très longtemps je me disais oui, on rêve sa vie, et puis après la réalité c'est pas toujours ça, comme beaucoup de gens hein. Et un psychiatre m'a dit, vous savez que c'est le départ de pratiquement toutes les dépressions, c'est l'écart entre ce qu'on souhaitait et ce qu'on vit réellement. Et ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, bon, ben, au lieu de rêver ma vie, je vais essayer de transformer mes rêves en réalité. Le problème étant que c'est extraordinairement difficile, que ça demande du travail, de la persévérance, de ne pas se décourager aux premiers échecs, parfois d'en prendre sur soi, parce que, par exemple, mes chagrins d'amour, il est évident que je ne les fais pas supporter à tous les hommes que j'aime, parce que ça, d'abord, ça serait quand même pas très discret de leur dire « je suis très malheureuse à cause d'un tel, ils ne sont pas le un tel ». Voilà, donc ça oblige à être très très responsable de ses actes quand même, si.
Alors, il y a une notion dans le couple ou les couples qui revient tout le temps en questionnement, c'est la question de la fidélité, évidemment. Et j'aimais beaucoup dans votre ouvrage, vous avez écrit sur la fidélité, qu'en fait, la fidélité est dans l'engagement qu'on a dans les couples qu'on forme, mais n'est pas synonyme d'exclusivité sexuelle.
Je crois que, d'abord en latin, fides fidei, qui a donné fidélité, c'est la confiance. Alors je crois qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, quelles sont les valeurs. Mais dans un couple pluriamoureux, il faut avoir confiance, et confiance dans l'autre, et confiance en soi aussi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on est brisé par n'importe quelle aventure. Et la fidélité, c'est d'être là quand l'autre en a besoin. Et je vais vous donner une anecdote qui n'a rien à voir avec ma vie conjugale, parce que je suis aussi fidèle à mes autres hommes. J'ai connu un homme que j'ai beaucoup aimé. Au départ, on a été d'ailleurs que des amis, puis on a eu une seule fois une aventure sexuelle, mais qui était nécessaire. Et ensuite, je suis restée son amie jusqu'à son décès, qui m'a beaucoup marquée il y a une dizaine d'années. Et je continue à voir ses parents. Parce que je me dis, après tout, je connaissais ses parents. Il n'y a aucune raison que je les lâche simplement parce que lui est mort. Et voilà, pour moi, c'est une fidélité. C'est quelqu'un qui compte et qui fera, je crois, éternellement partie de ma vie.
C'est difficile hein, à comprendre, parce que la fidélité, c'est vraiment la fidélité sexuelle. Enfin, pour les couples monogames.
Pour les couples monogames, oui, la fidélité, c'est l'exclusivité sexuelle. Et justement, les plus grands amoureux défendent l'idée que la fidélité, c'est pas l'exclusivité sexuelle. L'exclusivité sexuelle, c'est l'appropriation d'un être. Mais très souvent, des gens qui sont très jaloux et très monogames font à peine attention à la personne à côté d'elle. Vous savez, quand une femme part et que un homme dit « je comprends pas du tout, j'avais rien vu venir », ça voulait dire qu'il n'avait pas beaucoup regardé.
François Saint-Père, on vous a aussi qualifié de croqueuse d'hommes.
Disons que beaucoup de journalistes au départ s'imaginaient que j'avais une foultitude d'amants, et ce qui n'était pas vrai, parce que de toute façon les journées n'ont que 24 heures et qu'en plus il y a beaucoup d'autres choses que la vie sexuelle et amoureuse qui m'intéressent. Donc je n'ai pas une foultitude, simplement comme je suis fidèle et que je ne les perds pas en route, au bout d'un moment je peux dire j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais pas tant que ça, et je ne crois pas être une croqueuse d'hommes, parce que il y a beaucoup d'hommes qui, en dehors du fait de les croquer sexuellement, sont restés des amis et même des amoureux au niveau du sentiment, alors que sexuellement se rencontrent très peu pour un tas de raisons, ne serait-ce que parce que certains ensuite se marient et deviennent plus monogames, mais on ne perd pas notre lien.
Vous vivez plus des amitiés amoureuses ?
L'histoire de l'amitié amoureuse m'amuse toujours parce que les gens disent « Ah ben oui, alors ce n'est que de l'amitié amoureuse ». Mais l'amitié, pour moi, c'est le plus merveilleux des sentiments parce que c'est un sentiment qui est altruiste. Un ami, vous lui voulez vraiment du bien, vous n'avez pas envie de le posséder, enfin, sauf cas pathologique, mais sinon c'est quelqu'un dont, à qui vous voulez du bien et en même temps que vous êtes là prêt à aider s'il a des ennuis. Et vous ne vous demandez jamais combien de temps ça va durer. Vous avez un ami, pour vous, il est là, quoi, c'est votre ami. Alors qu'un amour, on commence toujours en se disant « Oh là là, c'est super, mais combien de temps ça va durer ?» Donc je trouve que c'est beaucoup plus altruiste et beaucoup plus profond que ce qu'on appelle amour, qui est plutôt la passion amoureuse. Et si à cette amitié, à ce sentiment, s'ajoute un désir, eh bien moi je dis que c'est l'amour idéal, oui, mais c'est de l'amour. C'est-à-dire, c'est pas du tout inférieur à la passion. Je vais vous dire un truc, même, je pense de plus en plus, et plus j'avance en âge, que la passion amoureuse, eh bien, c'est exactement l'antinomie de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est une sorte de maladie pathologique, fort agréable à vivre quand on la vit. Mais chaque fois que j'en suis sortie, je me suis dit, ouh, ben Dieu merci, tu en es sortie.
Est-ce que le polyamour est un remède contre l'érosion du désir ?
Je ne sais pas si le pluriamour est un remède contre l'érosion du désir. Je crois que le meilleur remède contre l'érosion du désir, c'est de découvrir ce que j'ai découvert relativement tard, je dirais vers 30-35 ans. Avant, je croyais toujours qu'un homme me désirait, que je devais être belle pour qu'il me désire, et que moi-même, je ne pouvais désirer que certains types d'hommes. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais dans la tête qui créait le désir, que le désir, il est en soi. Et on le voit le plus souvent, ben les femmes qui apprennent à caresser leur corps aussi découvrent que finalement elles peuvent jouir par elles-mêmes. Et je crois que ça apprend surtout le pluriamour justement à ne pas croire que c'est l'autre qui doit tout vous apporter. À se dire, ben au fond c'est moi qui suis aussi la maîtresse de mes désirs, de ce que je peux leur apporter. Moi maintenant je regarde les hommes et beaucoup plus que je ne cherche à ce qu'ils me regardent. Oui.
Les mouvements de polyamour, de pluriamour aujourd'hui, ils se rencontrent, ils se parlent. Vous participez aussi parfois à des échanges. Je vous avais dit, vous êtes venu à Bruxelles récemment pour une conférence, enfin une rencontre. Qu'est-ce qui s'y dit ? Est-ce qu'il y a des curiosités, des questions autres que d'ordre pratique, mais plutôt d'ordre idéologique qui s'y discutent ?
Je crois que ça dépend beaucoup des cafés, parce qu'il y a des cafés où viennent des gens qui n'y connaissent rien, donc qui posent vraiment des questions très basiques sur comment vous faites, comment on fait, etc. D'autres fois, on a eu récemment à Paris une rencontre avec des bisexuels qui trouvaient qu'il y avait un petit peu des convergences, parce que c'est vrai que chez les purs amoureux, il y a aussi parfois des gens qui ont un amoureux et une amoureuse. Donc qui aiment les deux sexes. Voilà, on se pose des questions plus larges sur la notion de sexualité et de genre, que vous savez, qui était très discuté ces derniers temps. On se pose des questions sur le côté politique. Pourquoi le couple est-il si prégnant dans notre société ? C'est qu'il a un rôle économique, politique, qu'il stabilise les gens et que, comme m'avait dit un jour Frank Spengler, mais si tout le monde vivait comme toi, la société serait dans un état terrible, c'est ingouvernable. Et justement, on réfléchit beaucoup à ça. Pourquoi veut-on à ce point-là gouverner les gens ? Donc, on retrouve ces réflexions, d'ailleurs, dans tous les textes anarchistes des années 30. Donc, ça n'a rien de nouveau. J'en ai retrouvé quelques-uns chez des bouquinistes qui défendent exactement le pluriamour. Alors, avec un côté un peu théorique, comme faisant les anarchistes, ça doit être comme ça, camarade, tu ne dois pas refuser le désir de ton camarade. Donc, c'était un peu prégnant. Mais disons que l'analyse du couple et de sa raison économique dans une société capitaliste, voilà, c'est des choses qu'on commence, ou de la famille, parce que si une purée amoureuse veut avoir des enfants de plusieurs pères différents, aujourd'hui, c'est assimilé à de la polygamie, vous voyez, enfin, il y a plein de choses, c'est vrai que ça pourrait être un bouleversement juridique et social.
Vous êtes invité à retrouver cet entretien avec Françoise de Saint-Père sur le site de Parlez-moi d'amour via l'adresse lapremière.be. Mieux encore, à découvrir la bibliographie ainsi que l'actualité de Françoise de Saint-Père. Mais avant de clôturer cette première heure de Parlez-moi d'amour, retour à nos archives. En avril dernier, Laure Katsaros, professeure de littérature française, spécialiste du 19e siècle et qui enseigne actuellement aux États-Unis, évoquait le nouveau monde amoureux, une utopie imaginée dans les années 1830 par le philosophe français Charles Fourier, figure du socialisme critico-utopique qui explorait librement les pratiques sexuelles et amoureuses, accusant les institutions du couple et du mariage érigées en normes sociales dans le monde civilisé de nous empêcher de vivre nos désirs et nos passions. On écoute Laure Katsaros à propos de Charles Fourier.
Pour lui, alors il pense que le mariage, la monogamie est quelque chose d'abominable. Alors pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons économiques, parce qu'il voudrait que toutes les familles vivent en commun et partagent tout. C'est un système communautaire. Donc il pense que si on est marié, si on a des enfants, on ne se préoccupe plus des gens autour de nous. On ne pense qu'à l'avenir de sa petite famille. C'est le modèle bourgeois, instruire les enfants, préparer leur avenir. Et dans ce cas-là, on est incapable de mettre ses biens en commun, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est notre propre lignée, notre propre famille. Donc il faut absolument mettre, alors pour mettre les biens en commun, il faut aussi mettre les personnes en commun et la sexualité en commun. Alors ça, c'était si scandaleux pour son époque que ce texte qui s'appelle Un nouveau monde amoureux n'est jamais paru. Ses disciples, comme Victor Considérant, ont caché ce manuscrit pour ne pas compromettre la réputation du mouvement fouriériste. Donc il pensait, alors d'abord, donc il rejetait absolument le mariage, donc on allait abolir le mariage. Les femmes et les hommes organiseraient des orgies où ils pourraient choisir, enfin selon les atomes crochus, on pourrait choisir des partenaires multiples. Et il était tout à fait féministe pour son époque. Il pensait que les femmes étaient très maltraitées, qu'elles étaient confinées aux tâches ménagères, aux tâches domestiques, et puis à des professions dans lesquelles elles ne pouvaient pas donner la mesure de leur talent. Donc il fallait que les femmes travaillent, et pour que les femmes travaillent, pour qu'elles contribuent au bien-être de la communauté, il fallait qu'elles aient une sexualité épanouie, donc qu'elles soient satisfaites par ce qu'il appelle des athlètes. Donc elles choisissent entre des athlètes, elles participent à l'organisation de ces orgies, et voilà, du coup tous les besoins sexuels sont satisfaits. Ça abolit la jalousie qu'il considérait comme un vice de la civilisation, c'est-à-dire tout ce qui nous entraîne à vouloir posséder quelque chose ou quelqu'un. Et lorsque des enfants naissent, ils ne sont pas élevés par leurs parents biologiques, par leurs géniteurs. Ils sont élevés en commun par ce qu'il appelle des mentors et des mentorines. Donc tous les enfants sont élevés ensemble. Et on abolit aussi l'héritage, enfin c'est-à-dire la transmission directe du patrimoine des parents aux enfants. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de... Enfin, on peut partager ce qu'on a accumulé pendant sa vie entre des héritiers qui ne sont pas du tout des héritiers biologiques, mais par affinité. Bon, moi, j'aime beaucoup la musique, donc je vais transmettre une partie de mon patrimoine à un enfant ou un jeune homme qui est musicien, même si j'ai aucun lien de sang avec ce jeune homme. L'héritage se fait comme ça par, encore une fois, par atome crochu, par affinité. Alors, c'est tout à fait original. Bien sûr, il était considéré à l'époque comme un petit peu fou. Et ces théories, qui me paraissent très séduisantes, parce que vouloir abolir la famille, abolir entièrement la famille, bien sûr, je pense que c'est utopique, que ce serait très, très difficile à réaliser concrètement, mais il y a une inversion fascinante de toutes les valeurs de l'époque, et puis une logique. Il pense que ce nouveau monde amoureux qu'il appelle de ses voeux doit reposer sur la passion, alors que le mariage et le travail tel qu'on le pratique à l'époque créent l'ennui et la déprime. Et tout doit venir de la passion, du désir.
Parlez-moi d'amour, fin de la première partie. Merci à Geoffrey Simonon pour sa complicité technique. Alors, si vous rêvez de fantasmes coquins et libertins, vous serez servi juste après le journal avec des pages pas très sages, extraites d'un roman de Françoise Saint-Père, Ce qui trouble Lola. Oh là là!
Podcast La Première.